Le podcast des voyages ordinaires. Roman.
Banalité pour un anthropologue, peut-être, cette réflexion du matin, alors que je regarde le soleil se lever sur la mer. Mais évidemment, pour un novice, l'idée brille un peu. Les théogonies anciennes ne sont pas seulement des récits décrivant l'origine des dieux et la genèse du monde, ce sont aussi des explications. Elles sont poétiques et sacrées, mais à l'instar de la relativité générale, du Big Bang ou de la physique quantique, elles ambitionnent de comprendre et d'expliquer. Les muses des Hésiodes, comme toute théorie scientifique, cherchent à dire, et parfois sont capables de dire, ce qui est, ce qui fut, et ce qui sera par la suite. Il y a des résistances. Pour les savants modernes, il y a un horizon de la lumière et du temps qui ne permet pas de distinguer l'origine. C'est beaucoup plus qu'un fond diffus. C'est qu'il y a, par définition, toujours un oubli au commencement des choses. Et les légendes naissent ici, du poinçon de l'oubli au cœur de l'origine, d'un vide à remplir. En conséquence de quoi, sous tous les cieux, quelle que soit la marée basse, l'orage ou la montagne regardée, les humains se sont imaginés des filiations fabuleuses, leur permettant de saisir des causes premières derrière les effets visibles de leur monde. Là se révèlent inséparables les histoires rêvées et l'histoire, les croisements de légitimité, de la nature et de l'humain. Ainsi, ces rois danois, issus d'un lignage résultant de l'accouplement d'une femme et d'un ours, ces fables du Pays basque, ou la légende Tagoun des Coréens. Ainsi, ces peuples turcs et mongols, descendants de loups. Et puis, ce nombre infini d'enfants élevés sous l'animal, et, sous tous les horizons, cette farandole de Nawal, de Gandharvas, de dieux demi-animaux, demi-humains, de centaures, de sirènes, de sphinx et d'hommes miennes. Avec eux se désigne une origine, s'élucide une question, s'explique une qualité. On répond en balbutiant une apparence animale au mystère de notre apparition. Car tels sont les mythes, des histoires qui se passent à une époque où l'homme et l'animal ne sont pas si distincts que ça. Et c'est ainsi que, souvent, Léo se représentait aussi son enfance, à moitié emmanché dans l'oubli d'un petit mammifère apeuré, plus souris ou hamster que petit singe, et traquait, dans sa vie d'adulte, ce qu'il en restait pour pouvoir très rationnellement l'effacer. Plus perçante est la vue, moindre est la profondeur, se dit ce soir-là Koizumi Yakumo, cherchant ouvertement à se consoler de son irréparable myopie. On rêve plus quand on voit moins. Il avait posé ses lunettes sur la table d'écriture à côté du pinceau, et après s'être frotté le visage à deux mains, il se tenait face à la fenêtre ouverte, qui faisait, sur la surface du mur, vert de gris mais comme un ciel tendu, avec des reflets de cuivre donnés par l'électricité de la lampe, à travers lesquels il pouvait imaginer un paysage de plantes qui luisent au soleil comme des jets d'eau. La fenêtre faisait une sorte de carré bleu sombre d'où il percevait les algues noires de ce qu'il savait être des feuillages. Du plus lointain de l'invisibilité lui parvenaient quelques chants d'oiseaux. Deux êtres se répondaient. Il entendait plus distinctement encore des frôlements d'insectes, des frottements plus semblables à des cris quand il s'en prenait à l'ampoule jaune et crue sous l'abat-jour. À cet instant, il eut la sensation que l'extériorité disposait d'une intimité. Il eut l'impression d'une présence du monde. Mais, après avoir remis ses lunettes, ce paysage si simple lui était redevenu un espace intérieur. Il se sentait comme un jardinier, qui sait d'instinct que les plantes qu'il a semées et qu'il cultive s'épanouissent et mûrissent, dans le temps, mais en lui-même également. Les souvenirs, ce sont avant tout des climats. En vieillissant, mes richesses sont toujours là, disposés autour de moi comme des couleurs sur une palette de peintre. Entre la fraîcheur diaprée d'un épisode de jeunesse, la tiédeur d'une aube d'été dans laquelle la main replonge en pensée, de la brûlure étonnante d'un automne qui se prépare difficilement aux rigueurs froides et sèches d'un hiver sans amour. Tant de points de flexion lentes, de passages quasi immobiles d'un épisode à l'autre. De la cendre de charbon d'une nuit pétrissant ses nuages lourds, à l'air aux abords bleus blanchissant l'aube, et il semble déjà que la conscience se réveille à midi. Puis, c'est déjà le soir, et les ombres des feuillages, dessinées, osselant les trottoirs comme des taches de léopard, s'effacent à nouveau et reviennent à la nuit. Time lapse. L'été passe comme cela. Dans la ville, souvent, la nuit vient des arbres, par les arbres, alors que le ciel paraît encore clair et que les rues sont encore animées. Je voudrais me souvenir et vivre le plus longtemps possible pour saisir toutes les variétés de couleurs, toutes les formes que le corps et le visage se proposent. Je voudrais me souvenir de tous les sentiments gagnés comme des rivages, puis à regret ou volontairement perdus. Des parfumées de cigarettes qui ont rempli mes poumons, moi qui ne fume plus depuis longtemps. Me souvenir, non pas pour comprendre, pour éprouver à nouveau, et décaler ainsi à l'infini les rebords de cette vie.
Les voyages ordinaires, ce sont des livres-objets, des romans fragmentaires, qui explorent des mondes qui ont été et des mondes qui auraient pu être. Ce sont des visages, des silhouettes, des plantes, des animaux, insérés dans une sorte de kaléidoscope d'étonnement entre êtres vivants et corps imaginaires. Et ce sont aussi, à travers ce podcast, des univers sonores, des personnages vivants.